C'est déjà fini. Voilà. OK. Alors, on va prier. Après ça, on va lire. On va commencer avec notre lecture. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Que ton nom, Seigneur, soit magnifié ce matin. Merci pour ta présence là où chacun d'entre nous est arrêté devant son ordinateur. Merci pour ce temps précieux que tu nous donnes afin de chercher ta face et afin d'être instruit par toi. Nous te demandons, Père éternel, de bénir l'ensemble des auditeurs d'aujourd'hui, l'ensemble des personnes, Seigneur, qui se réunissent afin de recevoir de toi et afin d'avoir instruction et saisir un peu mieux quels sont tes plans, tes projets et ta pensée pour nous. Reçois, Seigneur, toute notre louange et toute notre adoration parce que tu en es digne. Toi seul, en fait, en es digne. Ce matin, Seigneur, que ta grâce nous soit accordée et que tu nous accordes aussi ce privilège tout à fait unique de percevoir de façon tangible ta présence à nos côtés. Cette présence qui nous rassure, cette présence qui nous donne le courage et cette présence, Seigneur, qui nous rappelle que toi, tu nous mènes à bon port. Alors aujourd'hui, ces quelques minutes sont placées devant ton trône de grâce. Instruis-nous, dirige-nous, conduis-nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on ouvre dans le psaume 100. On prendra quelques instants à la toute fin pour saluer ceux qui se sont joints à nous en cours de route. Donc, David va commencer au psaume 100 avec une phrase étonnante, un préambule étonnant. Première fois dans tous les psaumes qu'il fait ainsi, mais il spécifie psaume de louange. Alors, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Faisons tout d'abord le sommaire de la semaine. Donc oui, comme on vient de le dire, un psaume de louanges, un psaume où David met des baromètres ou fixe les paramètres plutôt, les garde-fous, en début de texte où il nous dit, ce que je m'apprête à faire, c'est simplement louer Dieu. Et on a vu qu'il était peut-être un peu difficile pour nous dans nos pratiques habituelles de prendre ce temps strictement pour louer Dieu sans lui demander quoi que ce soit, sans lui présenter quelque besoin que ce soit, sans prier pour quelque autre sujet que ce soit, mais simplement prendre un moment pour le louer, pour le célébrer, pour le magnifier. Et c'est peut-être quelque chose où on s'est dit qu'on devrait travailler à travers cette semaine, mais non seulement cette semaine, mais aussi à travers le temps qui vient, de prendre ce temps tout simplement pour louer Dieu et non pas pour lui demander quoi que ce soit. Donc on disait pousser vers l'Éternel des cris de joie, le terme roua, qui était le fait d'avoir une telle joie à l'intérieur de nous qu'on ne peut la restreindre, qu'on ne peut la contenir, mais qu'elle sorte au plus fort de notre louange. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Un peuple qui a été racheté, oui, pour servir Dieu, mais pour servir Dieu aussi dans la louange, pour servir Dieu avec joie, pour servir Dieu avec exaltation. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Apprendre à connaître Dieu, apprendre à expérimenter la présence de Dieu et apprendre à l'expérimenter aussi dans le sens où il est celui qui nous a créés et qui est celui qui domine et qui dirige encore aujourd'hui nos vies. Et David le fait avec louange parce qu'il est heureux du propriétaire de sa vie, il est heureux du maître qu'il a, il est heureux du Seigneur qu'il a. Et il dit, nous sommes son peuple, donc travailler à l'unité du peuple de Dieu, travailler à protéger cette grâce que nous avons de faire partir, de faire partie de l'ensemble de la famille de Dieu. Hier, on a vu entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Entrer dans ses portes, entrer dans les parvis de Dieu, on a vu que ça se faisait au moyen de la louange, que la louange était cette porte, cette clé qui donnait accès aux parvis de Dieu, aux parvis royaux de Dieu. On a vu aussi qu'on devait rentrer avec des cantiques, avec des chants d'action de grâce, avec une louange qui était publique, qui était audible. Et l'exhortation à louer Dieu tant dans notre temps d'intimité que dans les moments où nous sommes assemblés communément en tant qu'Église, mais aussi de louer notre Dieu lorsque nous sommes seuls en présence d'inconvertis, en présence de personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est aussi notre mandat de célébrer Dieu, même dans un milieu qu'on dirait laïque. Et aujourd'hui, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Donc, on y va de façon structurée, car l'Éternel est bon. L'Éternel, bien sûr, Yéhovah, qu'on a déjà vu à quelques reprises durant ce psaume, celui qui existe, le seul vrai Dieu. Donc, celui qui existe comparativement aux autres qui n'existent par conséquent pas. Et le seul vrai Dieu qui signifie par conséquent que les autres ne sont que de faibles copies inefficaces. Car l'Éternel est bon. Le mot « bon », c'est le mot « tob », T-O-W-B, je répète, T-O-W-B pour ceux qui prennent des notes, qui veut dire « celui qui est agréable, ce qui est plaisant, ce qui est excellent, ce qui est meilleur que toute autre chose » et ce qui est digne de mention et digne d'estime. Alors ici, David finit son psaume en disant une grosse affirmation, « car l'Éternel est bon ». Une proclamation délibérée et forte de Dieu, de David plutôt, au sujet de Dieu. Et parfois, il est important pour nous aussi d'avoir ce genre de déclaration-là. Car l'Éternel est bon. Je reviens souvent à mes propres expériences, parce que je crois qu'on est appelé à être des témoins du Seigneur, et un témoin témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a expérimenté. Et j'aime bien rajouter à mes enseignements des périodes où j'ai pu expérimenter certains versets. Et ici, lorsqu'on dit que l'Éternel est bon, une des choses que j'ai tenu à spécifier à Dieu lorsque j'étais atteint du cancer, la première prière que j'ai faite, cette fameuse prière où j'ai dit « Seigneur, tout est correct, que tu veuilles me garder ici, c'est bien, que tu veuilles me ramener à la maison dans l'au-delà, c'est tout aussi bien, on te demande simplement de prendre soin de la famille et de l'Église. » Ce que j'ai rajouté à Dieu, ce que j'ai rajouté dans mes paroles au Seigneur, c'était « Seigneur, tu es bon. Tu étais bon hier et j'ai prêché hier que tu étais bon, mais aujourd'hui tu es aussi bon. » Et je voulais que ce soit clair entre Dieu et moi. J'avais mon épouse qui était assise à côté de moi, qui me servait de témoin, mais je voulais que ce soit clair dans le monde spirituel, dans le monde physique, qu'effectivement j'avais cette certitude que Dieu était bon, peu importe les circonstances. Alors c'est une genre de proclamation comme ça que David fait. On ne sait pas à quel moment ce psaume a été écrit. Est-ce que c'était dans une période d'euphorie, une période paisible? Est-ce que c'était une période d'anxiété, de combat, de tribulation? La Bible ne le spécifie pas. David, dans son psaume, ne le spécifie pas non plus. Mais ce qui est certain, c'est que cette déclaration, elle est courageuse, elle est ferme et elle est délibérée, ce qui devrait être nôtre aussi. Il est en train de aussi faire une proclamation qui ressemble à un axiome. Un axiome, c'est une chose, c'est une notion mathématique qui dit voilà la valeur d'une chose que nous n'avons pas à prouver, on sait que c'est cela. Et les deux valeurs à la base sont 1 et 0. 0 représentant rien du tout, représentant une valeur nulle, et 1 représentant 1. Aujourd'hui, quand on pense, c'est une notion qu'on apprend en première année, que 1 vaut 1. Mais ce qu'on fait lorsqu'on dit que 1 vaut 1, c'est un axiome autour duquel toutes les autres notions mathématiques sont bâties. À partir de la valeur du 1, on fait 1 plus 1 égale 2. Le 2 ne peut être expliqué que par le 1, mais le 1 en soi ne s'explique pas. Le 1 en soi, on le prend comme un fait. Et David ici présente la bonté de Dieu comme un fait. La chose qu'on pourrait expliquer par rapport à la bonté de Dieu, c'est que la bonté de Dieu fait partie de la nature même de Dieu. Et voilà pourquoi régulièrement, même traditionnellement, on va avoir cette expression qui dit « le bon Dieu ». Et c'est comme un peu dichotomique ou un peu redondant de dire le bon Dieu, parce que Dieu se doit d'être bon. Ça fait partie de sa nature. C'est pas comme s'il y avait un bon et un mauvais Dieu. Il y a juste un vrai Dieu en partant, et ce Dieu-là, de nature, est bon. Donc la bonté de Dieu est quelque chose qui doit être clair et définitif dans notre vie. On n'a pas besoin de la justifier ou de l'expliquer, même si régulièrement Dieu va poser des actes desquels on va être conscient, et parfois certains actes qui vont être inaperçus à nos yeux, qu'il fait à notre insu, mais qui témoignent tout de même de sa bonté envers nous. On n'est pas conscient de la protection que Dieu nous accorde, des pépins desquels il nous a sauvés, il nous a épargnés, mais ces actions-là font quand même partie de la bonté de Dieu. Donc, c'est une proclamation qui est forte et délibérée de David, mais de surcroît à cela aussi, c'est aussi un axiome, quelque chose que nous proclamons sans avoir besoin de le justifier. Et c'est une proclamation qui explique les versets précédents. Le premier mot de ce verset, c'est « car », qui veut dire « à cause de cela » ou « en raison de », voilà ce que je fais. Et dans les versets précédents, on se rappelle, il disait de louer Dieu, d'entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, de célébrer le Seigneur, de célébrer son nom. Pourquoi? Car l'Éternel est bon. Je le célèbre parce que je sais qu'il est bon. Je le célèbre et il reçoit toute ma louange parce que je sais que peu importe ce que je traverse actuellement, Dieu est bon. Et il va continuer en disant, car l'Éternel est bon, car sa bonté dure à toujours. Et ici, on va aller de façon plus précise dans le terme bonté. C'est le terme chesed. C-H-E-C-E-D, Chesed, C-H-E-C-E-D, qui parle de fidélité, qui parle de miséricorde, qui parle de grâce qui est accordée sans paiement. Durer toujours ou dure à toujours, c'est un seul mot en hébreu qui se dit olam, apostrophe, O-W. W-L-A-M. Je répète, apostrophe O-W-L-A-M, qui veut dire perpétuel, qu'on pourrait donner comme synonyme éternel, continuel, indéfini. Donc, il est en train de dire ici que la bonté de l'Éternel est éternelle. La bonté du Seigneur est éternelle. Au même titre où le Seigneur est éternel, mais ce qui le caractérise, ce qui forme sa personnalité, ce qui sont ses attributs, sont aussi de façon sine qua non éternel aussi. Alors son amour est éternel parce que Dieu est éternel. Sa grâce est éternelle parce que Dieu est éternel. Sa bonté est donc éternelle parce que Dieu est éternel. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que éternel veut dire de toujours et pour toujours, depuis toujours et pour toujours. Donc, il n'y a pas ce changement chez Dieu. Il n'y a pas une fluctuation dans la bonté de Dieu. Il a toujours été bon et il sera toujours bon. Et c'est intéressant ou c'est important de comprendre cette notion et de la saisir, de se l'approprier, parce que c'est pas les jours où les choses commencent à aller mal que je dois m'interroger à savoir est-ce que Dieu est bon ou il est pas bon. Cette conviction ferme doit reposer sur une décision, sur une constatation, sur une prise de position qui a été faite avant la période difficile. Je vous dirais que ce qui m'a permis, autre que la grâce de Dieu et bien sûr la prière de tous ceux qui ont élevé mon cas devant le trône de grâce, au-delà de cela, une des choses qui a été profitable pour moi lorsque je suis passé à travers la maladie, à travers ces moments qui étaient périlleux, c'était que j'avais déjà arrêté avant d'embarquer dans l'histoire de la maladie, sans savoir que je m'en allais là, mais c'était déjà un arrêt au niveau de ma pensée, comme quoi Dieu est bon. J'avais prêché là-dessus, j'avais réfléchi là-dessus, j'étais parvenu à un constat et je proclamais déjà avant la maladie que Dieu était bon. Alors, lorsque la maladie est arrivée, il a été facile de revenir ou plus facile, disons, de revenir à un état plus calme parce que je savais que le Dieu qui est bon éternellement, était à mes côtés et me gardait et prenait soin de moi, quelle que soit l'avenue. Je vous rappelle que j'ai dit à Dieu, c'est correct, tu peux me garder ici comme tu peux m'amener à la maison. Pour moi, je savais que le fait de me garder ici ne prouvait pas qu'il était meilleur dans sa bonté ou le fait de m'amener dans l'éternité, donc le fait que je serais mort de la maladie, ne faisait pas non plus qu'il était moins bon. La bonté de Dieu m'a soutenu pendant toute cette maladie, a calmé mon cœur, a apaisé mon cœur, a permis que je puisse traverser ces événements avec plus de quiétude, avec plus de calme. Et c'est là où j'ai pu expérimenter cette paix dont Paul va dire qu'elle surpasse ou qu'elle dépasse l'entendement. Une paix qui est comme illogique. Les médecins, les infirmières, même régulièrement, ont eu à dire, on est surpris ou M. Giacomin est en train de sourire, on comprend pas. Et c'était cette paix qui émanait de moi, mais qui venait du fait que j'avais arrêté dans ma pensée, dans mon raisonnement, comme quoi Dieu était effectivement bon. Alors, c'est important, si tu n'es pas dans cette période de crise déjà, et si tu es actuellement dans une période de crise, que tu arrives quand même à cette conclusion, comme quoi Dieu est bon, et que tu le mettes comme base, comme fondement à ta journée qui vient, ou aux semaines qui viennent, si celles-ci sont remplies de tribulations ou remplies de moments difficiles, il faut que tu assoies ta foi sur ce que tu connais de Dieu, comme quoi l'Éternel est bon. Et il va nous dire par la suite, et sa fidélité de génération en génération. Fidélité, c'est le terme emouna, donc la prononciation, vous me la pardonnez, je vous l'épelle, on est mieux là-dedans. Donc, apostrophe E, M-U, W, N-A-H. Je répète, apostrophe E, M-U, W, N-A-H. Et ce terme fidélité parle d'une fermeté, mais une fermeté et une constance. Ferme veut dire que la chose est déjà résolue, la chose est déjà acquise, la chose est déjà faite et il n'y a pas de ramollissement, on va dire, dans la position. Dieu est fidèle, point à la ligne. Et il y a une constance. La fidélité, c'est pas simplement je suis un peu avec toi aujourd'hui, puis demain je le suis beaucoup. La fidélité, c'est je suis avec toi, point à la ligne. Et ce point à la ligne, dans le cadre de Dieu, c'est qu'il nous dit qu'il est avec nous, point à la ligne, de génération en génération. Et génération, c'est le terme d'or, D-O-W-R, D-O-W-R, qui veut dire période, qui veut dire des âges, dans le sens des sections de temps, ou des airs, toujours dans le sens de sections de temps. Donc, il est en train de dire ici, David, non seulement la bonté de Dieu dure toujours, mais elle est aussi là de génération en génération, de période en période, de section de temps en section de temps. Alors que la génération représente une période de 20 ans, donc le vécu de certaines personnes, ou que ça représente certaines saisons dans notre vie, David va dire qu'il est fidèle. Donc la fidélité de Dieu, le premier point, c'est qu'elle est immuable. Elle ne s'arrête pas. Elle est là de façon permanente. Dieu est fidèle envers sa création. Dieu est fidèle envers ses enfants. Dieu est fidèle envers toi et envers moi, peu importe les circonstances et les situations. Mais lorsqu'on parle aussi de génération en génération, on parle de génération humaine, puisque Dieu est à l'extérieur du temps. Étant éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de milieu, il n'a pas de fin, il existe tout simplement. Les créatures qui sont arrêtées par la question du temps, c'est toi et moi qui sommes des créatures mortelles qui ont connu un début et qui connaîtront une fin et pour qui après l'éternité révélera si on la passe dans la présence de Dieu ou on la passe à l'extérieur de la présence de Dieu. Donc cette fidélité, David est en train de dire, elle dure de génération en génération, elle demeure nonobstant la génération humaine dans laquelle on est. Et certains vont vous dire que la génération dans laquelle on vit actuellement, au niveau de la piété, au niveau de la sanctification, au niveau du respect des préceptes divins, on est dans une période très critique, dans une période où on s'est grandement éloigné de Dieu. Mais ici, David faisait cette proclamation en disant « Peu importe la génération et peu importe les caractéristiques de cette génération, la fidélité de Dieu se manifestera. » Prenons simplement l'exemple dans l'Ancien Testament de Sodome et Gomorre, avec les péchés qui étaient propres à Sodome et Gomorre. Et la Bible nous dit que ces péchés sont montés jusqu'à Dieu. Et Dieu a envoyé un jugement, mais ce jugement n'a pas été envoyé sans que la grâce puisse être expérimentée. Et s'il y avait un homme juste, la Bible disait dans cette histoire, que cet homme juste serait sauvé. Et là, on parle bien sûr de Lot avec sa femme et ses filles qui ont pu quitter en toute quiétude et en toute sécurité la ville avant que celle-ci ne soit détruite. Lorsque le jugement de Dieu va venir sur l'ensemble de la création, et si le jugement de Dieu venait sur cette création, où la Bible nous dit que plus le temps avance, plus nos crimes et nos manquements et nos péchés deviennent encore plus litigieux qu'à l'époque de Sodome et Gomorre. Mais quand le jugement de Dieu va venir, la grâce de Dieu aura aussi été manifestée à travers la mort de Jésus et l'ouverture au genre humain de connaître le salut. Donc la fidélité de Dieu demeure nonobstant la génération, que cette génération soit favorable ou défavorable à Dieu, que cette génération soit une des meilleures ou que cette génération soit une des pires de toute l'histoire de l'humanité. Et finalement, le fait de dire que cette fidélité dure de génération en génération, c'est donc que la fidélité de Dieu n'est pas tributaire de l'environnement humain, qu'il soit bon ou mauvais, mais que cette fidélité-là est tributaire de Dieu. Un peu comme on disait de la bonté tout à l'heure. La bonté est un trait de caractère de Dieu. La bonté est une des facettes de Dieu. Sa fidélité envers la création que nous sommes, est aussi une partie de son caractère. Et la Bible nous dit que chez Dieu, il n'y a pas l'ombre même d'un changement. Ça veut dire qu'il n'y a pas le moindre millimètre de choses qui changent chez Dieu. Il est amour, il est bon, Il est compatissant, il est miséricordieux, il est fidèle envers nous. Et cette fidélité, donc, émane de lui et non pas de nous. Voilà donc pourquoi cette fidélité ne change pas, puisque Dieu est éternellement immuable. Si la fidélité de Dieu était tributaire de nos actions, ça voudrait, ou de notre état, ou de notre vie spirituelle, ça veut donc dire que par moment, sa fidélité serait très solide parce que nous sommes en bons termes et nous menons une vie qui lui est agréable, mais à l'occasion, lorsque nous chutons, lorsque nous délaissons le Seigneur, qu'à ce moment-là, sa grâce, sa fidélité, sa bonté diminuerait parce que nous, en premier plan, on l'a laissé tomber. Donc, David va louer Dieu parce qu'il est bon, qu'il ne change pas, parce qu'il est fidèle et qu'il ne change pas. Et pour David, c'était une raison supplémentaire d'élever sa voix pour proclamer son Seigneur. On vous rappelle qu'un psaume était un chant. Donc, il y avait des serviteurs, peut-être dans le palais, qui entendaient David chanter. Il y avait à l'époque, avant qu'il ne soit roi, peut-être qu'il était dans la bergerie, puis il était en train de fredonner des chants. Au pire, il y avait ses brebis pour l'entendre, ou les badauds qui passaient près du pré, qui pouvaient entendre ce jeune chanteur, ce jeune berger, élever la voix pour célébrer son Seigneur. Alors j'espère que cette semaine t'aura donné le goût, la pensée, le défi de louer ton Dieu de façon orale, de façon verbale, de façon audible, de le louer non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Oui, on doit prendre le temps pour remercier le Seigneur pour ses grâces et ses bénédictions, mais il est bon aussi à l'occasion tout simplement de le louer parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grand, parce qu'il est majestueux, parce qu'il est incomparable, et simplement le louer donc pour qui il est. Alors c'est le défi qui vous est lancé cette semaine, c'est le défi que nous avons pour les prochaines heures, les prochains jours, à prendre cette habitude d'hygiène spirituelle, je dirais, de louer notre Dieu, tout simplement en oubliant nos besoins, en oubliant nos requêtes, en oubliant les situations qui nous environnent, et simplement en nous concentrant sur Dieu, en regardant vers lui, en comprenant qui il est, combien il est merveilleux, et tout simplement laisser notre cœur se répandre devant le Seigneur avec cette louange et cette adoration. Et n'oublions pas, le Seigneur nous dit qu'il sied dans la louange de son peuple. Donc Dieu sied dans ta louange, Dieu sied dans ma louange. Alors pourquoi je me priverais de la présence de Dieu? Pourquoi je me priverais d'avoir accès à son intimité, à la proximité avec le Seigneur? Pourquoi je m'en priverais? Et le moyen idéal pour entrer dans sa présence, le moyen numéro un pour entrer dans sa présence, est donc la louange, l'adoration. Et on prie que cette semaine, ce soit ton cas. Alors, permettez-moi de prier pour vous. Et puis après ça, on va faire les salutations et on va répéter les rendez-vous que nous avons à travers les prochains jours. Alors Seigneur, merci pour cette semaine qui s'achève. Pour ce dernier enseignement, Seigneur, où tu nous rappelles qu'effectivement, tu es bon. Où David, Seigneur, prend le temps pour parler à ses contemporains, mais à nous aussi, qui le lisons bien des siècles plus tard, comme quoi tu es bon. Et effectivement, Seigneur, nous ne voulons pas questionner ni ta bonté, ni ta miséricorde, ni ta grâce, ni ta fidélité, parce que nous savons que tu es qui tu dis que tu es. Tu dépasses notre entendement et notre compréhension. Tu dépasses, Seigneur, les mots que nous pourrions prononcer pour te décrire et pour te rendre hommage. Mais Seigneur, ce matin, reçois simplement notre gratitude. Peut-être que c'est un simple merci aux oreilles de l'homme et à nos yeux. Mais Seigneur, nous prions que ce merci soit bien senti, que ce merci, Seigneur, soit bien reçu de ta part. C'est la chose que nous pouvons t'offrir, notre gratitude, notre reconnaissance. Et nous prions, Seigneur, qu'en dépit des circonstances et des situations, nous ayons compris le besoin et l'importance de te louer et de t'adorer. Tu ne changes pas, tu es immuable dans toutes ces caractéristiques qui sont tiennes. Tu es immuable dans ton amour, tu es immuable dans ta bonté, tu es immuable dans ta miséricorde, tu es immuable, Seigneur, dans l'affection que tu as envers nous. Alors merci, Seigneur, parce que nous ne le méritons pas. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère, je bénis leur journée aujourd'hui. Je recommande, Seigneur, leur sort à ta bonne main, que tu puisses les guider, les diriger et les instruire, que tu puisses, Seigneur, aussi parler à leur cœur. Révèle-toi et qu'ils puissent, les uns et les autres, Seigneur, prendre des décisions. Décisions de te louer, de t'adorer, de t'être fidèle. Décisions, Seigneur, de sanctifier leur vie et de suivre, Seigneur, les préceptes que tu nous donnes dans ta parole. Afin, Seigneur, d'aller de progrès en progrès et d'être à tous les jours un peu plus agréable à ton regard, ô Dieu. Alors, en toute chose, que la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, permettez-moi de saluer quelques personnes qui pourraient s'être jointes à nous. La dernière personne que j'ai saluée tout à l'heure, c'était Ingrid, je crois. Donc, voir si je vois d'autres personnes. La sœur Adriana. Je vois Diane, Vanessa. Je ne vois pas les autres. Merci Yann pour ton message. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Moi, je n'ai pas vu, donc il semble qu'il y a des gens qui sont venus essayer de déranger un peu, mais que le Seigneur les bénisse aussi. Je vais voir si je trouve d'autres personnes ici. Je ne crois pas que je vois de nouvelles personnes. Bon, il y en a qui veulent se comparer à Dieu dans leurs choses. Je répéterai à ces personnes, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a toute la puissance. Et tout ce qui se fait à l'extérieur de ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, dans la Bible, et une faible copie et une faible comédie de la réalité, de la grâce, de la bonté et de la puissance de Dieu. Et Dieu nous appelle tous à nous repentir de nos mauvaises voies. Alors je vous invite vous aussi à connaître Jésus et à savoir qu'il est la seule voie de salut et que toutes les forces spirituelles et toutes les techniques spirituelles qu'on pourrait essayer d'utiliser ou d'appliquer sont vaines. Le seul qui a toute la puissance s'appelle Jésus et il nous remplit de son esprit et nous remplit de sa puissance. Alors, je prie que Dieu vous parle et que vous veniez à le connaître et à le reconnaître aussi comme votre Seigneur et votre Sauveur. Donc, ceci étant dit, je pense que j'ai salué tout le monde. Alors voilà les rendez-vous pour aujourd'hui à 19h ce soir, heure de Montréal bien entendu. On a notre temps de prière et d'intercession, donc une première partie de prière structurée suivie et une deuxième partie qui est basée sur les requêtes que vous aurez. Donc, on vous invite à être là. Je me connecte toujours, comme vous savez, quelques minutes avant pour saluer tout le monde. Daphné sera là pour être la webmestre et recevoir vos requêtes qu'elle me distribuera par la suite une fois classée à mi-parcours de notre soirée. Et on pourra élever chacune de ces requêtes par la suite. Donc, 19h ce soir. Par la suite, ça va être donc dimanche matin à partir de 10h, heure de Montréal, toujours sur toutes les plateformes de l'Église. Que ce soit Facebook, YouTube, Zoom, je crois que c'est à peu près tout, ou le site internet de l'Église aussi, où vous pouvez nous visionner. Et après ça, on reviendra donc la semaine prochaine avec notre programme régulier qui débutera lundi avec un nouveau passage, une nouvelle thématique pour la semaine et des réunions à tous les matins à 8h30. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 bonne journée. Que Dieu soit avec vous. Louez le Seigneur. Prenez le temps, allez faire une marche. Et pendant que vous regardez le soleil qui sera là aujourd'hui, puisque vous appréciez les températures chaudes, prenez le temps simplement pour louer le Créateur de tout ce qui vous entoure. Prenez le temps pour louer le Seigneur pour le souffle de vie que vous avez. Louez le Seigneur pour les jours, les semaines, les mois, les années, les décennies qu'il met devant vous. Lui seul sait. Mais j'espère que vous arriverez à faire cette même prière que moi un matin après une annonce difficile qui était simplement « Seigneur, c'est correct, tout ce que tu fais est bon. Que tu me gardes, que tu m'amènes, tout est correct parce que tu es bon. » Alors que Dieu vous bénisse, Dieu est bon. Et puis à ce soir pour tous ceux qui seront là.